Vous écoutez Radio Électron Libre. Bienvenue dans Info ou Intox, une émission présentée par Vincent. Info ou Intox, 60 minutes pour s'interroger. 60 minutes durant lesquelles nous allons ensemble procéder à un décryptage de l'actualité. Info ou Intox sur Radio Électron Libre, nous sommes ensemble pour 60 minutes.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Électron Libre pour cette nouvelle émission de Info ou Intox, une émission où on s'interroge, on décortique et on rigole un peu jaune parfois face aux absurdités de notre monde. Animé par votre serviteur Vincent Vermeil en direct sur Radio Électron Libre. Un merci du fond du cœur, comme d'habitude, aux contributeurs qui permettent en partie depuis plus de 4 ans maintenant à la radio d'exister. Alors, continuez, ne pensez pas que les autres vont faire, etc. Faites-le, sinon, rien ne se fait. Retrouvez sur le site internet de la radio, electronlibre.ch, en bas de la page d'accueil, toutes les coordonnées et possibilités pour faire un don. Cela étant dit, Info ou Intox XXL, aujourd'hui, va fouiller les recoins sombres de l'histoire pour débusquer les magouilles des puissants. Eh oui, oui, oui. Mais avant ça, aujourd'hui, en ce 11 septembre 2025, j'ai une pensée profonde pour tous ceux qui sont morts et leurs familles et amis lors de la destruction voulue et programmée par la mafia des deux tours du World Trade Center à New York. Et cela uniquement pour du profit. Pensez aussi et condoléances aux familles et amis d'Irina Zakhrouska, 23 ans, sauvagement égorgée le 22 août dernier dans un tramway de Charlotte, en Caroline du Nord, aux USA, laissant les passagers hagards et sans réaction, tellement le geste est inconcevable sur le moment. Elle est morte parce qu'elle était simplement une femme blanche, dixit son assassin, et aussi parce que la justice a failli et n'a pas mis son assassin, multirécidiviste, de vol et d'agression, etc., en prison à vie. 14 fois, un juge l'a vu et n'a rien fait, ou presque. Interrogeons-nous et posons-nous la question de savoir si, comment on peut vivre dans un monde où la justice ferme les yeux sur les prédateurs, les agresseurs, les voleurs, les violeurs, pour des raisons qu'on ose à peine nommer. Comment pouvons-nous vivre dans un tel monde ? Une tragédie qui, pour moi, pue l'échec systémique où les élites, les juges, etc., préfèrent des statistiques à la vie humaine. Pensez aussi pour la femme et les deux jeunes enfants, ainsi que les amis et la famille de Charlie Kirk, lâchement abattu, assassiné d'une balle dans le cou tirée à 200 mètres lors d'un meeting sur le campus de l'université de la vallée de l'Utah, là encore aux USA hier. Il parlait vérité, amour de la vie, vraie démocratie, sans tyran ni tyrannie, de valeurs justes, d'intégrité et du respect de la famille, de la liberté. Jour après jour, il dénonçait la mafia en costard qui ronge les peuples pour ses profits obscènes. Big Tech, Big Pharma, les lobbies, ces ombres qui pourrissent l'air qu'on respire. Assassiné pour avoir osé réveiller une génération contre les chaînes invisibles, assassiné alors que dans ses derniers mots au public, il parlait justement de l'assassinat d'Irina. Ces assassins me donnent encore plus de courage. Ces assassinats me donnent encore plus de courage, de force, de volonté. Et cela sans aucun doute, sans peur, pour qu'à ma manière, et parfois maladroitement, je continue d'apporter ma contribution à ce, et que ce monde redevienne meilleur, plus juste, plus sain et plus serein. L'être humain ne naît pas fondamentalement assassin, bien au contraire. Interrogeons-nous sur les sens des mots respect, vie et liberté. Pour rendre hommage à ces deux âmes et à toutes et à tous les innocents et combattants guerriers partis trop tôt à cause de la folie de certains, de l'égoïsme d'autres, plusieurs titres me sont venus à l'esprit, mais je crois que celui-là va aussi vous parler. Merci à Irina et à Charlie. Et à tous ceux qui sont morts pour avoir osé vouloir vivre, osé résister. Résiste de France Gall, et oui, et oui, et oui. Voilà, c'était un hommage pour dire merci aussi à l'innocence d'Irina et au combat de Charlie. Pas facile de continuer cette émission après cet hommage, mais embarquons-nous maintenant pour un voyage à travers les siècles dans l'histoire de la Suisse. Imaginez un pacte ancestral de 1291, signé par des montagnards libres qui voulaient juste vivre en paix sans se faire marcher sur les pieds par des seigneurs étrangers. Ce document n'est pas un conte de fées ni un mythe, mais un vrai traité écrit en latin à l'époque, promettant une alliance pour toujours, si Dieu le veut. Et une valeur légale et juridique profonde et constitutionnelle, malgré ce que certains peuvent en dire en essayant de le faire passer pour un vieux machin juste bon à être exposé dans un musée, sans plus aucune considération pour ce contenu et surtout sa validité. Et pourtant, jamais aboli par un vote, une votation populaire. Vous savez, ces trucs là où le peuple lève la main, les Landsgemeinde, où glisse un bulletin pour décider de son sort. Non. En 1848, une élite rusée, malfaisante et égoïste, l'a juste écartée, comme on range un vieux meuble dans un grenier, pour imposer son propre jeu de pouvoir, ses propres lois qui les arrangeaient. Alors, un faux ou un tox ? On va décortiquer ça avec des faits, des noms, des dates et une bonne dose de sarcasme parce que franchement, qui n'aime pas se moquer un peu des grands qui se prennent pour des génies ? Oui, mais alors des génies maléfiques s'ils en sont. Et pour que ça reste accessible à tous, je vais essayer de vulgariser, hein, pas de jargon, juste des explications claires, un peu comme de l'eau de roche ou de l'eau distillée ou tout ce que vous voulez distiller. Allons-y, et n'oubliez pas, vous pouvez réagir, questionner en rejoignant le groupe Telegram de la radio Électron Libre en un mot et au pluriel. Sujet, émission, info ou intox XXL. On démarre notre périple, notre voyage en 1291. Au bord du lac des Quatre Cantons, où trois communautés, Uri, Spitz, Nidwald, Unterwald, signent le pacte fédéral. Pas des rois, hein, pas des nobles en perruque, enfarinés, juste des représentants locaux, des paysans, etc., qui en avaient marre des Habsbourg, cette famille impériale autrichienne qui voulait les taxer, les spolier, les juger. Le texte en latin parle d'alliance défensive, de paix mutuelle et du refus strict d'ingérence de juges étrangers. Et surtout, à la fin, il dit ceci. In perpetuum duraturis concedente domino, que l'on peut traduire simplement par qu'il dure perpétuellement si Dieu y consent. Voilà. C'est la base d'une démocratie directe, primitive. Pas de chef suprême, mais des assemblées locales où les gens votaient à main levée, surtout des impôts en passant aux guerres. Imaginez des milliers de citoyens en plein air, levant le bras pour décider. Ça marchait, ça fonctionnait. Sachez pour la petite histoire qu'on retrouve aussi ce genre de démocratie directe chez les Vikings, et cela bien avant que le latin existe ou même la Suisse. La Confédération s'agrandit avec des pactes comme celui du Brunnen en 1315, là encore contre les Habsbourg. Ou un pacte aussi à Zurich en 1351, toujours en respectant et incluant l'esprit et le sens basique, juridique et constitutionnel du pacte de 1291. Pas d'abrogation, juste des ajouts de la continuité. Nos ancêtres avaient un système communautaire socio-économique solide, commerce libre, défense collective, sans élite centrale pour piquer dans la caisse. Ah, l'âge d'or, l'âge d'or, l'âge d'or. Avant que les modernisateurs, les mafiosos ne débarquent avec leurs idées soi-disant éclairées, hein, mais surtout des idées destructrices qui perdurent encore factuellement de nos jours. Mais attendez, attendez! Voilà les premiers nuages qui arrivent de la part de ces élitistes en 1798, 500 ans plus tard. Eh oui, mais comment qu'on a fait pour survivre pendant 500 ans, hein? Surtout sans tous ces parasites, comme dirait notre papy national. Et vous savez qui est l'instigateur du premier nuage? Eh bien, c'est Napoléon Bonaparte. Eh oui, c'est un Corse ambitieux, hein, se prenant pour un empereur, qui envahit la Suisse avec ses troupes, sous prétexte de libération. Eh oui, il impose la République helvétique, une constitution centralisée, redirigée par des généraux français comme Brune et des collabos locaux. Et voilà, fini les petits pactes communaux, régionaux, entre les vallées, etc. Et bonjour les départements administratifs à la française. Et le pacte de 1291 et les suivants, où s'ils sont passés? Eh bien, ils sont écartés comme de vieux parchemins poussiéreux. Et cela surtout sans vote populaire des habitants des vallées concernées. Incohérence totale, où est passée la démocratie directe et les votes à main levée? Des résistances populaires s'éclatent, hein, comme dans les cantons primitifs où les gens, habitués à leur Landsgemeinde, refusent catégoriquement ce diktat. Mais l'élite française, avec le soutien des toujours les mêmes collabos suisses non élus, hein, écrase par la force, parfois, toute résistance. Napoléon, libérateur, laissez-moi rire. Plutôt un manipulateur qui réécrit l'histoire en faveur de ses conquêtes. Notre voyage continue en 1803. Napoléon, encore lui, dicte un acte de médiation, car la grogne populaire prend de l'ampleur et les gens, les habitants, veulent que les choses redeviennent comme avant. Alors imaginez une population qui, pendant des siècles, vit de manière simple, juste et démocratique. Et cela sans trop d'encombre majeur, hein, et qui se voit asservir pour les profits d'une pseudo-élite, hein, qui détruit des siècles d'identité. Cette médiation, hein, est une restauration boiteuse, suite aux grognes de la population, de la Confédération, mais avec plus de pouvoir central pour ces fameuses élites conservatrices locales qui ont bien compris comment se remplir les poches sans rien foutre ou presque. Et devinez quoi? Plus tard, c'est le comble, en 1815, après sa défaite à Waterloo, les mêmes élites mafiosi européennes exilent Napoléon à Sainte-Hélène, une île paumée, hein, voilà, parce qu'il a osé à un moment donné défier leur ordre mafieux et spoliateur. Alors, évidemment, ils ont trouvé de multiples excuses pour cet exil. Hein. Ils ont dit, oui, mais c'est pour la paix, etc. Voilà. Mais en réalité, c'est pour garder le contrôle sur les peuples, y compris les Suisses. La marionnette Bonaparte étant devenue inutile et dérangeante. Waterloo de Abba, hein, qui a gagné l'Eurovision avec cette chanson en 1970. 34, si mes souvenirs sont justes, je n'ai plus la date exactement en mémoire. On va continuer notre épique voyage. Hein. Alors, toujours en 1815, on a le fameux congrès de Vienne et ses accords. Alors, c'est une grande kermesse, hein, des puissants post-Napoléon, hein, qui lui est en train de croupir à Sainte-Hélène, voilà. Ayant pour acteurs des diplomates non élus, et oui, comme par exemple Clemens von Metternich, un Autrichien, ou bien Talleyrand, un Français, et un petit Lord Castelrag du Royaume-Uni. Alors, entre eux, ou presque, hein, ils redessinent l'Europe, y compris la Suisse, bien sûr, hein, et ils imposent un nouveau pacte fédéral, et alors, quelque chose de fantastique, la neutralité perpétuelle. Rappelez-vous, hein, perpétuelle, déjà le pacte devait être perpétuel. Oui. Reconnu, donc, cette perpétuité est reconnue alors internationalement pour faire de la Suisse un tampon stable pour leur commerce. Encore une fois, une décision, entre guillemets, égoïste. Alors, ces accords de Vienne ont été négociés par une représentation suisse élitiste, hein, comme Johann Conrad ou Reinhard de Zurich, sans vote populaire ou Landsgemeinde, là encore. Et le pacte de 1291 dans tout ça ? Eh bien, voilà, ça commence à devenir une habitude, ignorée, déclarée comme obsolète, hein, tandis que la perpétuité, soi-disant, devient sacrée. Perpétuelle, ouais. Vous allez m'accuser d'humour noir, mais bon, perpétuelle pour les élites quand ça protège leur profit, mais facultatif pour les fondations populaires. C'est quand même étonnant, hein. Bref, on est là dans la manipulation pure. Et la Suisse devient un havre pour banquiers et marchands du temple, ça, à vous d'y répondre, au détriment de l'autonomie locale qui avait fait sa force depuis plus de 500 ans. Nos ancêtres devaient se retourner à l'époque dans leur tombe de vrais ventilos. Maintenant, accélérons un peu notre voyage et arrivons à la fin vers la fin du 19e siècle. Début du 19e plutôt. Les tensions montent, l'industrialisation s'impose, mais aussi les inégalités, etc. Et cela à cause des accords de Vienne. Mais personne n'en parle, hein, faut surtout pas le dire. Hein. Car déjà à cette époque, la population, même sans Internet, constatait les dégâts socio-économiques et humains, ainsi que la spoliation du fruit de leur labeur par cette pseudo-élite. Qui, elles, se remplissaient les poches sans rien faire ou presque sur leur dos. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas une sorte d'esclavagisme moderne. Hein ? On s'interroge. Mais bon, chut, faut pas le dire ça, hein ? Chut, non, faut rien dire, hein ? Non. En 1847, avec la guerre du Sonderbund, qui oppose les conservateurs catholiques comme Uri, Schwitz, mené par Constantin Sigvart Müller de Lucerne, aux libéraux protestants. Alors, on se pose aussi la question, est-ce que la protestation des protestants n'est pas à géométrie variable aussi, hein, qui, eux, veulent ces protestants centralisés pour mieux, soi-disant, pour mieux spolier, en fait. Alors, les libéraux, sous Henri de Druet et Ulrich Horschenbein, gagne vite avec une guerre courte mais décisive. Eh bien, les résultats ne se font pas attendre. Hein. La constitution de 1848, rédigée par une commission de, accrochez-vous bien, hein, 25 bourgeois élitistes, hein, donc pas élus par tous, car le suffrage à l'époque était devenu limité aux hommes riches. T'as du pognon, tu votes. T'as pas de pognon, tu crèves. En gros, c'était comme ça. Voilà. Tant que cette constitution après a été ratifiée par des votes cantonaux, mais partiels. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que là encore, c'était les riches qui votaient, puis les autres, voilà. Et donc, ces votes cantonaux partiels créent dans la finalité un État fédéral unifié avec notre fameux Conseil fédéral et son Assemblée. Voilà. Et le pacte de 1291, dans tout ça, vous allez me dire, eh bien, écarté de nouveau, pernicieusement, et encore une fois, sans abrogation populaire, juste relégué à un symbole pour la fête nationale qui fut inventée, instaurée en 1891, pour le 600e anniversaire, et afin de, là encore, calmer la grogne populaire qui constatait les dégâts déjà grandissants à l'époque de ce système devenu déjà mafieux, ne profitant réellement qu'à certains riches qu'il était devenu au départ avec les combines de Napoléon et compagnie. Alors, point principal, chers auditeurs, à retenir, hein, jamais, et je dis bien jamais, la population ou même la caste mafieuse des pseudo-élus riches, etc., n'ont voté pour abolir ce pacte de 1291 et les suivants qui l'incluaient. C'était une mise à l'écart sournoise par une élite libérale pour booster, soi-disant, l'économie, les chemins de fer, avec pareil, les banques aussi, avec la création en 1856 de feu le Crédit Suisse. Ou bien alors de barrages, de systèmes hydroélectriques, bien évidemment au profit de leurs poches et de celles de leurs marionnettes. Et avec déjà des déboires, j'en ai parlé dans une autre émission, mais avec déjà des déboires et la folie des grandeurs de certains, conduisant à des faillites retentissantes et massives, obligeant même certains cantons, comme par exemple celui de Fribourg, à reprendre la gestion et l'exploitation d'installations hydroélectriques qui sont devenues par la suite les fameuses entreprises électriques fribourgeoises, gérées dans la finalité et à l'époque entièrement par le département cantonal des eaux et forêts, pour être, comme par magie, à nouveau privatisées, devenant aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, le groupe E, dont on connaît les soucis financiers et les licenciements. Alors, moi, j'ai bien l'impression qu'on prend le même système et on recommence en espérant que les résultats soient différents. Eh bien, à voir, qu'est-ce qui va sauver le groupe E si tout à coup, il doit licencier plus que machin, hein ? Voilà. Et on appelle ça la démocratie moderne, les gens. Ouais, la démocratie moderne, ça vous parle ? Bah ouais, voilà. Alors moi, je dis plutôt que c'est plutôt un coup de maître de ces élites pour transformer une alliance libre en machine à cash provenant du travail des populations, ne leur laissant que les miettes. Hein. Alors, je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas quelque chose, mais moi, ça me rappelle les souvenirs d'esclavagisme pur et dur sous couvert de modernisme. Les chaînes, le fouet, devenant trop visibles et en plus détruisant prématurément les esclaves. Bah oui, non, c'était pas bon. Donc ils ont changé le système en fait pour maintenir une espèce d'esclavagisme, laissant les miettes aux esclaves, etc. Alors, bien sûr que des révoltes locales surgissent, mais qui sont vite étouffées. Et puis, on appelle ça un tournant, encore une fois, jouons sur les mots, un tournant démocratique. Alors qu'en fait, c'est simplement la destruction des bases communautaires qui fonctionnaient depuis 1000 ans. Voilà, de retour dans cette aventure, dans ce voyage sur ce pacte de 1291. On arrive à la fin du 19e siècle avec une industrialisation toujours galopante et les inégalités toujours là et augmentant de plus en plus, la grogne populaire aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait, hein? Zut, alors on peut plus polier tranquillement, ça va pas le faire. Faut qu'on trouve un truc qu'on va déclarer super, sûr, efficace, inclusif, etc. Ça va pas du tout, les ouvriers gueulent et qui commencent à se grouper pour réclamer des changements. Ben, on va trouver des marionnettes directement chez ces ouvriers et puis ça ira mieux. On va comme ça pouvoir les manipuler, ces ouvriers qui grognent. Et en 1888, on a la fondation du Parti Socialiste Suisse à Berne par des ouvriers comme Hermann Gröhlich et Alexander Reichel. Est-ce que ce seraient les premières marionnettes ou y en avait-il déjà avant cela ? On peut s'interroger. Alors, officiellement, le Parti Socialiste Suisse, ça fait un peu, le PSS, ça fait un peu nazi, non ? Dans le nom, bref. Et pour les travailleurs, normalement, il est prévu pour les travailleurs. Mais vu par certains, il y avait déjà des réveillés à l'époque, comme un outil pour canaliser les grognes. Alors, c'est un sacré paradoxe, parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce Parti Socialiste, n'a que 35 000 membres environ. Pas moi qui l'invente, c'est indiqué sur leur site internet. Et puis, aussi, il a 2 sièges au Conseil fédéral depuis 1959, grâce à la formule magique, qui, elle, n'a rien du tout de législatif. Est-ce la continuité des arrangements entre petits copains ? On peut se poser la question. Bref, effectivement, ça interroge grandement. Car depuis lors, factuellement, et déjà avant, merci Napoléon et compagnie, on constate un effondrement du système démocratique qui permet un contrôle parlementaire, un contrôle parlementaire sur les agissements de l'État, y compris des décisions prises par les juges, etc. Tout cela s'effondre et s'effrite gentiment. Je disais donc 35 000 membres pour l'actuel Parti Socialiste Suisse, avec 2 Trabuzzer au Conseil fédéral et des millions en caisse. Oui, 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 c'est un des partis les politiques les plus riches du pays. Avec 35 000 membres, c'est quand même étonnant. Hein. Donc, entre 8 et 9 millions de francs annuels qui rentrent dans ses caisses par les cotisations hein, et les mandats. Ah bah oui, on a mis en place une sacrée machine à laver derrière tout le système des partis politiques. Alors, c'est une sacrée incohérence, hein, parce que normalement, une vraie démocratie directe, ben, il n'y aurait pas besoin de partis politiques pour manipuler l'info. Car les citoyens décident et votent seuls dans en leur âme et conscience, comme on peut dire. Mais bon, ben, la mafia, elle a compris cela. Et puis, elle a compris qu'avec environ moins d'un million d'adhérents, tous partis politiques confondus, ben, il fallait trouver une solution. Et la solution, ils l'ont trouvée. Manipuler l'info, et c'est là que c'est pernicieux, manipuler l'info par la TV et la radio publique, payées par ces bobets d'esclaves, dociles qui font confiance au système pourri de l'intérieur, depuis des siècles. Elle n'est pas belle la vie et la démocratie directe en Suisse. Non mais vous vous rendez compte, on est en train de payer obligatoirement, hein, parce qu'autrement on vient saisir, hein, on vous met aux poursuites, hein. On est en train de payer obligatoirement les organes qui nous désinforment et qui nous manipulent. C'est fou ça, hein. Et c'est réel, hein. J'en ai parlé dans l'émission Info Intox de la semaine passée, hein, les mensonges de la RTS et compagnie. Et ils continuent allègrement, hein. Alors ils mentent par omission, mais ils mentent aussi en déformant la vérité, voilà. Alors dans notre petit voyage, continuons, et puis nous avons les révisions constitutionnelles qui s'enchaînent. Alors en 1874, soi-disant pour renforcer le fédéralisme. Ah bon? En 1999, et on utilise encore des mots très grands, c'est soi-disant pour le modernisme, moderniser tout ça. Mais oui, c'est ça. Et la marmotte emballe le choco dans le pacte de 1991. Oups, pardon, dans le papier d'alu. Mais plus sérieusement, toutes ces réformes diluent l'autonomie, non seulement des communes, qui, je le rappelle, sont à la base du fédéralisme. Mais on détruit les communes les unes après les autres. En fusionnant, on détruit cette démocratie directe. C'est Landsgemeinde, hein, il ne reste plus beaucoup maintenant. On les détruit parce qu'on les fusionne, etc. Mais cela aussi détruit, entre guillemets, l'autonomie des cantons. Et tout cela, comme déjà à l'époque, toujours en faveur d'une pseudo-élite intergénérationnelle devenue principalement banquière. Et qui, bien sûr, elle a flairé les bons coups, impose par exemple le secret bancaire en 1934 pour attirer l'argent sale. Et oui, oui, oui. Alors ils font d'énormes profits, hein, au détriment d'une Suisse normalement égalitaire et communautaire. Alors secret bancaire qui a presque disparu de nos jours, hein, car plus besoin de cacher le pognon, l'or, l'argent, les bijoux, etc. Hein. Ben non, parce que tout est fait par des ordinateurs et il suffit de modifier les chiffres. Voilà, pour avoir un peu plus dans le compte ou un peu moins dans le compte. Voilà. Donc on peut créer de l'argent sans problème, on n'en a rien à foutre que l'argent soit adossé à telle ou telle valeur. Non, non, on ouvre son ordinateur. Ah, copain, tu veux des millions ? Tiens, attends, je te prends le computer, je te mets l'argent. Voilà, c'est fait. Vous allez me dire que je suis fou, que je suis complètement dérangé de parler comme ça, mais en gros, c'est ce qui se passe, d'accord ? Alors, au XXe siècle, la neutralité perpétuelle devient factuellement un mensonge élastique. Et le pacte de 1291, de plus en plus, un mythe fondateur. Pendant les guerres mondiales, hein, la Suisse profite et commerce avec tous, y compris avec les nazis, avec l'histoire de leur volée. Après, en 1945, les élites, comme les familles Pictet et d'autres, hein, créer des banques privées et s'enrichissent outrageusement. Je vous invite à lire sur le sujet un livre très intéressant qui s'appelle « L'élite suisse contre la démocratie directe » de M. Antoine Chollet. Je crois qu'il était sorti en 2021. Et qui dénonce factuellement et explique comment les élites sapent les initiatives populaires pour leurs intérêts. C'est factuellement de l'anti, si on peut utiliser ce mot-là, hein, il n'est pas dans le dictionnaire, mais moi j'appelle ça de l'antidémocratisme implicite. Comme par exemple Platon à l'époque qui trouvait le peuple trop, entre guillemets, passionné, hein, pour ne pas dire, pourquoi pas, débile, hein, pour décider. Mais bon, Voilà. On va pas se chercher plus loin. On continue notre voyage avec non pas la visite des chutes du Rhin. Non. Le clou du spectacle étant que depuis 2022, le Conseil fédéral, emmené par Ignacio Cassis et Viola Amerde, en tête de gondole et en bonne marionnette servile de la mafia, adopte les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Alors les gels d'avoir, le boycott, etc. Et puis s'alignant sur l'OTAN, malgré la neutralité, hein, soi-disant déclarée perpétuelle, de 1815. Alors bon, ça fait rire jaune. La Chine nous voit comme, entre guillemets, inamicale. Ah bon ? Et puis alors la Russie rigole quand ces zoupés du Conseil fédéral et compagnie organisent une conférence de de paix sans elle. Vous savez, au Birken, machin, Stock, la machin, je sais pas quoi. Hein ? Perpétuelle la neutralité, oui. Bref, hein. La marmotte, elle en emballe. Hein. Alors cette soi-disant perpétuité, elle est, encore une fois, hein, comme déjà dit, quand elle est là, quand ça arrange les élites, la mafia, surtout pour leurs alliances économiques. Le pacte de 1291, je le rappelle, jamais aboli par votation populaire, a été délibérément et illégalement hein, écarté en 1848 pour l'espèce de cirque et de théâtre hypocrite que l'on vit actuellement. Nos ancêtres, pourtant, avait un système qui fonctionnait bien. Alors bien sûr, il y avait des hauts et des bas, hein, comme tout étant une question d'équilibre sur Terre, mais les élites, eux, l'ont volé, effacé ou presque, car ce qui en reste est pratiquement juste du folklore pour faire croire à une population lobotomisée par les complices que sont mafia appelée faussement média, et puis tout ça pour leur unique profit. Laissant des miettes de pain et des jeux débilitants et avilissants à la population. Alors, est-ce une info ? Est-ce une intox ? Je vous laisse y réfléchir. Michel Sardou, je suis pour. Voilà une chanson qui, à l'époque, a été censurée, hein, en 1970 et quelques. Elle avait été censurée, bien évidemment. Hein, c'est en faveur de la peine de mort pour ceux qui tuent impunément des enfants, etc. Voilà, ou des gens, tout simplement. On continue ce périple, ce voyage, hein, concernant notre fameux pacte fédéral de 1291. Et on s'interroge encore, est-ce que le pacte fondateur de la Confédération suisse est-il toujours valable selon la formule que ses signataires ont volontairement inscrite à la fin de celui-ci, qui, je le rappelle, est en latin, in perpetuum duraturis concedante domino. Qu'il dure perpétuellement si Dieu y consent. Alors oui, à bout de juger, hein, chers auditeurs, chères auditrices, et pour vous prouver ce détournement de démocratie directe en augmentation constante depuis environ 200 ans, sachez que le système politique suisse s'éloigne de manière très inquiétante des intérêts, de vos intérêts, des intérêts des citoyens et citoyennes de ce pays. Alors non seulement le peuple normalement souverain hein, doit faire face à un conseil fédéral surpayé, inefficace, mais maintenant aussi à un conseil national qui lui tourne également le dos, le parlement, évidemment, les chambres parlementaires qui lui tournent autour, qui tournent le dos au peuple. La dernière proposition en date, hein, venue de Berne, est un coup de poing, si on peut dire, pour les contribuables. La TVA doit augmenter de 0,7%. Pour une fois de plus, tromper la population et étouffer les protestations dans l'œuf. Cette augmentation est présentée, encore une fois, comme temporaire, hein, jusqu'en 2030, soi-disant. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec cette date de 2030, mais c'est impressionnant. Tout est rattaché à 2030. Mais pourquoi pas 2040, 2050, 2100, je ne sais pas, moi. Bref. Mais qui croit sérieusement ces promesses de nos jours, hein? Et bu celles non tenues depuis des décennies. Franchement, vous y croyez, vous ? Car notre histoire montre que ce qui commence comme des mesures provisoires deviennent trop souvent permanentes. L'introduction, comme exemple, hein, nous avons l'introduction temporaire de la TVA en elle-même. Un autre exemple, par exemple, les mesures liées au coronavirus, qui ont duré des années, et qui dure encore, puisque je rappelle que jusqu'en, encore une fois, 2030, je crois, la loi est toujours active, d'accord. De plus, maintenant, nous avons les élus, entre guillemets, à Berne et ailleurs en Suisse, qui évitent les questions vraiment délicates. Ils ont toujours, quand vous les interrogez, hein, moi j'en ai fait personnellement l'expérience, ils ont toujours, quand vous les interrogez, des excuses bidons, hein, les mots tout faits, d'accord. Alors, au lieu de présenter des solutions immédiates et durables pour le financement de l'ABS ou d'autres projets, ils reportent chaque fois leurs responsabilités aux prochaines grandes réformes, hein, de l'ABS en 2030, par exemple, ou autres. Et puis, en attendant, avec tout ça, d'autres augmentations de l'âge de la retraite ou des mesures impopulaires devraient apparemment être discutées, et cela, bien évidemment, sans impliquer le peuple à temps. Et lui permettre de l'accepter ou de le refuser, soit en levant la main pour les dernières Landsgemeinde qui existent, soit en me glissant un bulletin de vote dans une urne. Voilà. Alors c'est un schéma récurrent, hein, de la politique suisse. Les décisions sont retardées, les problèmes sont repoussés à plus tard, et puis à la fin, c'est le peuple qui paie les pots cassés, d'accord ? Évidemment, en plus, sans avoir son mot à dire, ou presque. Hein. Alors une fois de plus, il apparaît que dans les intérêts, hein, des citoyens et des citoyennes de ce pays passent au second plan. Alors que tout augmente, hein, les prix de l'énergie, le coût de la vie explose, hein, et que le pouvoir d'achat, d'accord, ce qui vous reste dans le porte-monnaie après avoir payé tous ces parasites, diminue. Les parlementaires, eux, semblent vivre dans leur propre petite bulle de confort, etc. Leurs salaires généreux, leurs frais somptueux. Hein. Je rappelle que le Conseil fédéral, par exemple, s'est commandé pour des millions des véhicules, pour plusieurs millions aussi un petit avion. Hein, voilà. Il n'y a même pas de hangar, bref. Hein. En fait, il est où, Guy ? Non, j'arrête, mais bon. Voilà. Donc, les parlementaires, ils sont dans leur propre bulle. Et puis, en plus de ça, à la fin de leur mandat, ils ont des retraites dorées. Hein, qui contraste quand même fortement avec la réalité de ce que vit la population active au quotidien. Alors c'est un scandale, hein, que des politiciens souvent peu productifs soient financièrement assurés, alors que, d'après les derniers chiffres, 21% de la population en Suisse doit lutter pour chaque franc tous les mois. Eh oui, 21% des habitants de ce pays, tous les mois, d'accord, doivent lutter pour boucler, pour arriver à remplir le frigo, etc. Alors maintenant, il faudrait arrêter tout ça, hein, et puis que une politique et des élus, hein, et des politiciens deviennent vraiment responsables, d'accord. Le but étant, bien sûr, qu'à tout niveau, cela serve la population entière et non une toute petite partie de celle-ci, parce que ça ne va pas du tout. C'est pourquoi certaines personnes, hein, proposent, notamment sur certains sites internet, je suis tombé sur des mesures qui vont vous paraître peut-être drastiques, mais qui permettraient de mettre fin à l'irresponsabilité de certains et à la mentalité un peu égoïste dans les parlements, et cela dans toute la Suisse. Alors, la première idée est de réduire drastiquement salaires et postes de travail. Les salaires du Conseil fédéral et du Parlement doivent être réduits d'au moins 50%. De même que les postes superflus dans l'administration au niveau fédéral, cantonal et même communal doivent être supprimés. Environ, d'après la proposition, au moins 80% de la main-d'œuvre, entre guillemets, hein, de la main-d'œuvre actuelle, doit être effacée. La Suisse a besoin d'une administration légère, efficace et pas d'une bureaucratie gonflée. Le point numéro 2 approche une autre possibilité, hein, c'est la responsabilité personnelle des politiciens. Ceux qui exercent une fonction politique doivent répondre de leurs erreurs avec leur patrimoine privé lorsqu'elles nuisent au bien commun. C'est le seul moyen de garantir que les décisions sont prises dans l'intérêt du peuple et non par intérêt personnel ou politique. Hein, vous savez, quand on décide entre petits copains. Voilà. Troisième point proposé, hein, c'est la transparence et le contrôle. Toutes les décisions politiques, en particulier concernant notamment l'ABS, d'accord, ou les augmentations d'impôts, doivent être communiquées de manière transparente à la population et validées par des référendums. Il ne doit plus y avoir de politique en coulisses. Quatrième proposition faite, c'est pour abolir l'égoïsme, c'est-à-dire un peu les frais et les privilèges des politiciens, qui doivent être réduits au strict minimum. Ceux qui représentent le peuple doivent aussi partager sa réalité quotidienne. Alors ces mesures, hein, selon ceux qui les proposent, hein, permettraient de séparer le bon grain de l'ivraie. Les profiteurs hypocrites et bigots, hein, qui pullulent de la gauche à la droite en politique, seraient ainsi rapidement éliminés. Avec ces mesures, il y aurait à nouveau assez d'argent pour l'essentiel. Les retraites, la santé, l'éducation, les transports, etc. Et non pour les poches d'une élite mafieuse autoproclamée. Il faut revenir aux fondamentaux que nos ancêtres avaient compris et appliqués il y a plus de 700 ans. Voilà. On arrive gentiment au bout de cette émission. Je vous remercie pour cette heure ensemble, hein, en espérant vous avoir apporté un peu de, si je puis dire, lumière, avec un éclairage différent sur la Suisse et son histoire. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps réagir et questionner en rejoignant le groupe Telegram de la radio Électron Libre, en un mot et au pluriel, sujet, émission, info, intox, XXL. Et s'il vous plaît, j'insiste, le 28 septembre, journée, c'est un dimanche, hein, journée de votation, allez voter en personne. Ça diminue les risques de magouille par la mafia. Alors, rencontrez-vous, organisez un apéro, un repas canadien, votation, voilà. Faites des petites affiches là dans votre quartier, puis dites, on se retrouve pour faire une bouffe, alors entre amis, entre voisins, en famille, etc. Parce qu'il est quand même important, et je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, les vrais contacts humains sont primordiaux dans un monde où la déconnexion humaine est connectée et mise en place pour mieux nous diviser et nous asservir. Voilà. Tous ces sujets abordés vous interrogent, c'est bien. Renseignez-vous, cherchez et surtout interrogez-vous. Tout n'est pas ce que l'on voudrait vous faire voir ou croire à tout niveau. Rendez-vous pour un autre info ou un tox, format XXL, bien de chez nous ou de chez les autres, jeudi prochain, dès 19h en direct. Et pensez à soutenir l'association Humanum Contactus et sa radio Électron Libre. Vos dons réguliers permettent ce genre d'émission et d'autres, comme celle de demain, le grand vol invisible à 19h, aussi en direct. Ce sera l'épisode numéro 4 et on parlera des monnaies numériques en direct avec Pascal T. Borel et moi-même à 19h. Alors, plus votre soutien sera grand, plus nous pourrons ensemble faire bouger les choses. À bientôt et écoutez Radio Électron Libre, ça se passe entre les deux oreilles.